Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer cette nouvelle lecture, je reprends la dernière page de la lecture précédente, ce qui nous amènera à mieux restituer la conversation dans son cadre et à mieux comprendre. Ce n'était pas fini. Je sentais que le sage voulait encore parler, mais il hésitait. Était-ce de la fatigue ? J'étais restée si longtemps ce jour-là. Ce jour-là où il était malade, à moins qu'il ne fût envahi par des souvenirs douloureux. Son visage était devenu subitement si grave. Enfin, il murmura, s'arrêtant fréquemment. « Il y a deux situations aux multiples visages devant lesquelles les hommes qui savent dans leur tête, sans savoir par leur corps et leur cœur, devraient parler avec infiniment de délicatesse et de compassion. Peut-être même se taire. C'est devant la souffrance et l'amour quand ils deviennent passion. Comment pouvoir, debout au pied d'un lit où le malade cloué, submergé de douleur, ne peut plus faire autre chose que crier et pas même prier, dire en de belles paroles comment il faudrait vivre cette écrasante souffrance? Comment quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la chaleur d'un corps tendrement enlacé et le battement d'un cœur follement emballé, peut-il, devant un homme à terre, le cœur brûlant, le corps en feu, proclamer hautement quelles sont les règles sages pour éteindre l'incendie quand c'est l'homme tout entier que sa passion consume? Marie, au pied de la croix dressée, ne disait rien, et Jésus lui-même, devant la pécheresse, se taisait, mais je crois qu'il priait. Et moi, en sortant, je pensais que le sage avait dû beaucoup souffrir de belles paroles répandues sur ses plaies ouvertes. Chapitre 36. J'avais découvert un nouveau visage du sage. Lui qui m'apparaissait si dur, si intransigeant pour défendre la pureté de l'amour, s'était révélé, lors de notre dernière rencontre, merveilleusement attentif aux multiples difficultés des amants. Je m'en trouvais profondément réconfortée. Aimer, pour en finir, c'était toute la vie essayer d'aimer et répéter mille et mille fois le « oui » que je croyais unique. Je ne saisissais pas toujours immédiatement la pensée de mon ami. Je notais ses paroles, je les relisais, fruits offerts qu'il fallait soigneusement éplucher avant de consommer. Certaines phrases pourtant m'atteignaient directement. Elles franchissaient la porte du cœur sans passer par la tête. Et je me disais, celle-ci depuis longtemps est pour moi façonnée. Le sage avait dit, le corps prend, quelquefois, un chemin que le cœur ne veut pas. Et cette phrase, comme une flèche, m'avait atteint. Elle m'était destinée. Je n'étais pas encore le maître de mon corps. Depuis longtemps, celui-ci m'embarrassait. Très tôt, comme tous les enfants, je le découvrais, l'explorais, l'aimais. Malheureusement, on me mit en garde contre lui, au lieu de me dire qu'il était un ami. Comment pourrais-je alors faire bon ménage avec lui? Plus tard, je le voulais robuste et fort, et je souffrais qu'il ne le fût pas autant que celui de tel ou tel camarade qui triomphait toujours dans les multiples combats que nous nous livrions. Plus tard encore, j'enviais certains de mes amis que je jugeais plus beaux que moi et donc plus séduisants. Ce sont eux que les filles regardaient en premier. Tout en jouant l'indifférent, il me fallait alors user de nombreux artifices pour compenser mon handicap. J'y parvenais, mais j'étais secrètement humiliée. j'avais également très vite expérimenté que si mon corps était capable de me gêner, et même quelquefois de me faire souffrir, il pouvait aussi m'offrir beaucoup de satisfaction. Il me procurait, à la demande, des plaisirs merveilleux, mais hélas, fugitifs. Je devais les renouveler, et plus je les renouvelais, plus mes désirs renaissaient, tenaces, tyranniques. La rencontre des filles, après avoir été pour moi une avide curiosité, était devenue une obsession. Le plaisir que nous nous donnions, un besoin. Satisfaction, une raison de vivre. Je ne m'en étonnais pas. Les camarades que je fréquentais éprouvaient les mêmes désirs, vivaient les mêmes aventures. Nous nous les racontions et nos histoires étaient grivoises. Tout cela était pour nous l'amour. Mais très vite, au fur et à mesure que mes rencontres avec le sage, une gêne indéfinissable s'était installée en moi. J'étais mal à l'aise, inquiet, quelquefois vaguement dégoûté. Je me rendais compte que j'avais sali quelque chose de beau, et malgré mes efforts pour regarder les filles d'un tout autre regard, j'étais souvent poussée à prendre ce que je ne voulais plus prendre. De cette lutte depuis longtemps, je voulais parler aux sages. Je n'osais pas. Mais ces mots de tendresse récemment recueillis résonnaient en moi comme une invitation. Demain, j'oserai. Le corps humain est beau, me dit d'abord mon ami, et peut-être plus particulièrement celui des femmes. C'est le regard de l'homme que quelquefois peut le salir en se posant sur lui. Ainsi, la main souillée défraîchit l'objet qu'elle veut saisir. Il faut laver ses yeux avant qu'il ne touche un corps. L'homme peut alors le regarder, l'admirer, le respecter. « Mon corps n'est pas beau, dis-je, et quelconque est mon visage. » Je te l'ai déjà dit, c'est la clarté des cœurs qui fait la vraie beauté, car les plus belles lampes sont bien ternes quand, en elles, la lumière s'est éteinte. Tu seras beau, mon petit, si ton cœur est lumineux et si ton corps est pour lui comme un époux fidèle. Mais le mien est infidèle, je l'ai laissé s'échapper. Beaucoup d'hommes, il est vrai, vivent ainsi éclatés. Ils ont dit à leur corps qu'il était libre, il en a profité. Or, aucun d'entre nous ne peut s'épanouir s'il ne tient épouser son esprit, son cœur et son corps. L'homme est un, ainsi Dieu l'a voulu, et nul ne peut diviser sans risque ce que Dieu a uni. Que donneras-tu de toi, mon petit, si ton corps n'est pas toi? Et quelle vie offriras-tu à l'autre si tu n'offres qu'un corps inhabité? Va, rejoins-le et dis-lui. Tu as été planté, mon corps, semence de mon père, dans la terre labourée au ventre de ma mère. Tu as été pétri, mon corps, de sang, de chair, de sourire, de chansons et peut-être de pleurs. Tu as été pétri au rythme d'un cœur qui bat dans l'attente du jour. Tu m'as été donné, mon corps, en même temps que mon cœur et mon esprit, ensemble réunis, pour que pas un de tes membres, pas même une parcelle, ne puisse dire « je suis » sans être autre que moi. Tu as été mis au monde, mon corps, pour être embauché sur un dur chantier où, rejoignant tes frères, ouvriers amoureux d'une terre donnée, ensemble, vous l'acheviez pour en faire un royaume. Tu as été baigné dans l'eau, mon corps, quand tes parents reconnaissant que leurs enfants étaient aussi enfants de Dieu, forts présentés à l'Église de Jésus-Christ pour que tu deviennes membre vivant de son corps. Tu as appris à parler, mon corps, bien au-delà des mots, pour que des doigts, des lèvres, de tout de toi, communiant au corps d'une autre, tu puisses dire « je t'aime » au plus fort de l'étreinte, et qu'ensemble vous donniez un nouveau frère aux hommes, un nouveau fils à Dieu. tu as été envoyé mon corps pour qu'à tous les hommes, et d'abord celle que tu aimeras, tu puisses dire tout bas quelque chose de Dieu. Car, le sais-tu, mon corps, quand Dieu, si lointain, voulut rencontrer l'homme pour son amour lui déclarer, c'est un corps qu'il demanda à la petite Marie, et ce corps, elle le fit, lui donna en le donnant au monde, et lui nous le livra pour que nous communions à lui, et qu'ensemble pour toujours nous devenions un comme lui et un avec son Père et son Esprit. Alors, dis-lui encore, je ne veux pas un corps, toi l'époux de mon cœur, te traiter en simple objet de plaisir, et je ne veux pas qu'on s'amuse de toi comme d'un instrument dont on use, on abuse et rejette en riant. Je ne veux pas, mon corps, que loin de moi tu t'échappes comme lâche déserteur passant une frontière pour fuir les combats. Je ne veux pas, mon corps, que tu sois autre que moi, vêtement, déguisement qui me trahit, me cache. Je ne veux pas, mon corps, fugueur incorrigible, que vagabondant loin de chez nous, tu cueilles pour ton plaisir des fruits que je n'ai pas choisis. Je ne veux pas, mon corps, que tu mentes sur moi quand tu parles de moi. À ma musique, je t'accorderai pour que ton chant soit juste, et chaque jour t'interrogerai pour que tes mots soient vrais. Que dis-tu de moi, mon corps, pour révéler mon âme? Que dis-tu ma main dans la main de l'ami? Que dis-tu mon regard, lumière du cœur à la fenêtre de mes yeux? Que dis-tu mon sourire, fleur éclose au jardin de mes lèvres? Que dis-tu mon baiser, souffle de ma vie sur le visage aimé? Que direz-vous mes bras amoureux, berceau où dormira mon tendre amour, quand ensemble une seule chair nous serons devenus? Que direz-vous mes membres là, quand, mordus par le mal, vous crierez ma souffrance et sa fille solitude? Et quand ma bouche se taira, mes yeux, parlerez-vous encore? Et quand mes yeux se fermeront, mon visage glacé, reflèteras-tu encore la douce lumière de mon âme envolée? Ô corps donné, corps aimé, parole de mon âme, chanson de mon amour, corps souvent rebelle et souvent infidèle, je veux de toutes mes forces avec toi reprendre vie commune, car sans toi, je ne puis être moi, et sans moi, tu n'es que bateau ivre qui, rompant ses amarres, ne deviendra qu'épave. Reviens vers moi, mon corps, et nous vivrons ensemble. Nous aimerons ensemble et donnerons la vie, et notre Seigneur Jésus nous conduira unis tout au bout du chemin, au-delà des tombeaux, vers la résurrection. J'allais sortir, l'infirmière entrait. Décidément, nous nous croisions. Elle tenait l'enfant par la main, et ils étaient joyeux. « Nous avons fait connaissance, dit-elle, et je vous l'amène. Mais seulement pour un baiser, il ne faut pas vous fatiguer. » Elle vint vers le sage, lui toucha le front, lui prit la main et la garda un moment dans la sienne. « Vous avez de la fièvre ? Vous avez trop longtemps parlé, lui dit-elle doucement, presque affectueusement. Puis, se redressant, elle me regarda à mon tour et ajouta d'une voix ferme cette fois, « Ce n'est pas raisonnable !» Le reproche était pour moi. Je le compris et sortis immédiatement, en maugréant contre cette infirmière que décidément je trouvais peu aimable. Chapitre 37. J'avais une amie, beaucoup plus âgée que moi. Elle n'était pas encore mariée. Nous la connaissions depuis longtemps, mes camarades et moi. Nous l'avions classée parmi les filles « sérieuses ». C'est-à-dire trop sérieuse pour nous. Nous avions ainsi inventé des catégories dans lesquelles nous faisions entrer les filles que nous rencontrions sur nos routes de jour ou de nos nuits, bien sûr. Cependant, nous respections cette amie Et moi, je l'aimais comme une grande sœur, sans trop oser le dire ou le manifester devant mes camarades. Souvent, avant de connaître le sage, je parlais avec elle. Elle me disait des choses que le sage plus tard me dirait. Je me moquais gentiment de ses belles idées. Je pensais alors qu'elle n'était que rêverie de petite fille qui ne connaît de l'amour que de belles images. Moi, je savais. Elle m'intriguait pourtant. Mon amie s'était éloignée. Elle habitait maintenant loin de moi et je ne pouvais plus vivre avec elle la joie de l'amitié. Je le regrettais, car aujourd'hui, je crois, je l'aurais mieux comprise. Je la rencontrai par hasard. Elle était toujours seule. J'étais heureux de la revoir. Je l'observais, souriante, mais un peu grave, trop réservée, et cependant riche, j'en étais sûre maintenant, de richesses inaccessibles aux yeux du passant trop volage. Tout à coup, je pensais que les garçons étaient sots de l'avoir laissée sur le chemin, marchant à côté d'elle sans l'avoir remarquée. Et je me dis que si elle avait été plus jeune, aujourd'hui, je l'aurais peut-être aimée. Elle me regardait tandis que je la regardais. « Tu as beaucoup changé, » me dit-elle tout d'un coup. « Comment le vois-tu ? » ?»« À ton visage, et plus encore à ton regard. »« C'est vrai, » dis-je, « je te raconterai plus tard. » Et nous décidâmes de nous revoir. Elle s'éloignait. Attendait-elle encore ? Était-elle résignée ? Souffrait-elle ? Je l'ignorais. Elle souriait. Moi, j'étais triste pour elle et je pensais « c'est injuste, j'en parlerai au sage ». Le sage, il était sérieusement malade. Cette fois, j'en étais sûre. Je le vis en entrant. Allongé sur le lit, il se reposait, frileusement enveloppé dans une sorte de grande houppelande. Il paraissait vieilli, amaigri. Son regard, cependant, gardait toute son intensité et son sourire, sa chaleur bienfaisante. Il fit un effort pour se lever et, malgré mes protestations, péniblement rejoignit son fauteuil. « Il n'y a pas de temps à perdre, » dit-il. « Viens près de moi. Parlons. Mon infirmière doit revenir bientôt. Elle me disputera. » Et, me regardant de son œil malicieux, il ajouta « Elle est sévère, tu sais, je dois lui obéir. » Alors, je lui parlai de mon ami. « Je connais moi aussi, » dit-il, « plusieurs jeunes filles qui attendent en vain qu'un jeune homme vienne et leur dise « Je t'aime ». Certaines souffrent beaucoup. Tout homme, en effet, a besoin de connaître son prix et de savoir un jour que sa vie vaut bien une autre vie. Pourquoi alors, répliquai-je, certaines ne rencontrent personne qui vienne le leur prouver ? Était-ce la volonté de Dieu ? La volonté de Dieu, répliqua-t-il vivement, c'est que tout homme aime. Le reste est mystère en la vie de chacun. Tissu serré d'événements, fruit de notre liberté et de celle des autres, et de cette nature qui fait pluie et soleil parce qu'elle est faite ainsi. On m'a dit que Dieu conduisait tout dans nos vies. Pas moi, dit-il, s'animant à nouveau. C'est nous qui conduisons nos vies dans le dédale souvent illisible des décisions de tous et de chacun. Et nos vies sont pointillées de pourquoi, dont la plupart jamais sur terre n'obtiendront de réponse. Plus tard seulement, dans la lumière, nous découvrirons chaque oui et chaque non et pèserons leur poids d'amour ou de péché. Je ne vous suis plus, ami. Vous qui m'avez si souvent parlé de Dieu, il est donc absent ? Il est infiniment présent, mon petit. Aurais-tu mal compris? Dieu est un père aimant qui, pas à pas, accompagne chacun de ses enfants. Mais il les laisse marcher seuls en leur offrant sans cesse la lumière et la force de son amour pour qu'ils vivent avec lui ce qu'ils ont décidé de vivre. Et ce qu'ils n'ont pas décidé de vivre, mais qui leur est imposé, une épreuve, la solitude. Si la situation ou l'événement est là, présent, incontournable, un jour, ils doivent décider de le vivre et non pas de le supporter. Tout, alors, peut devenir providentiel pour celui qui, s'ouvrant à l'amour, trouve la force de vouloir vivre ce qu'il n'a pas voulu. C'est ainsi que vous parlez à la jeune fille, belle et sage, qui vient vous demander lumière pour sa route solitaire? Je lui dis d'abord de chercher un compagnon. Et ensuite? Ensuite, c'est à elle de parler, car c'est elle qui décide. Un peu d'attente. Oh, mon cœur qui bat comme bat cœur de femme, tendresse disponible, fleur éclose à chaque saison de vie, qui viendra te cueillir en mon buisson caché? Viens vite, belle inconnue, car si quelques fleurs j'ai offertes, que les autres ont jetées, j'ai gardé le bouquet, mais le bouquet se fane. Oh, mon corps, île nue, qu'aucun navigateur n'a jamais visité, j'ai tant envie certains soirs d'été de lancer ma barque à la mer pour ramener sur mes rivages quelque explorateur avide de richesses. Il cherchera, découvrira mes trésors enfouis, et si de mon or il ne fait une alliance, mon or aura brillé pour lui l'espace d'une nuit. Mais il n'est pas venu, en mer je ne suis pas sortie. Ô mon sein, mon champ qui attend en vain la semence d'amour et mes bras disponibles, les enfants de mes rêves. À quoi sert la terre, stérile de moissons, et les branches tendues qui ne portent le fruit? Seigneur, pourquoi la vie, si je ne puis la donner? Insouciante d'abord, j'ai regardé les garçons qui passaient. Je les ai vus saisir de mes amis, les mains tendues au bout de leurs regards, et plus tard les ai vus sortir des églises en les tenant aux bras, et j'ai chanté, souri, heureuse de leur joie. Mais l'un après l'autre, ils s'éloignaient, qui marchaient deux à deux, et bientôt réunis par un trait d'union rose, qui souriait ou pleurait en réclamant le lait. Et moi seule, à la maison, je suis rentrée, qui n'était pas choisie. On m'a dit, ô belle fille sage à la fenêtre qui ne voit rien venir, peut-être te caches-tu quand tu entends émue la voix des garçons parlant sous ta fenêtre? Peut-être as-tu grandi trop vite et le passant ne peut plus croiser ton regard d'horizon? Peut-être as-tu vieilli trop vite, occupé à l'ouvrage, remplissant un devoir sans compter des années, le rapide passage? Peut-être as-tu de l'amour une si belle image que le garçon rencontré, penses-tu, n'en saura griffonner qu'un décevant croquis? Ô belle fille sage à la fenêtre qui ne voit rien venir, n'espère pas l'aubade de garçon chantant sous ton balcon. Jadis les filles attendaient que la musique vienne, mais vous savez, aujourd'hui, vous aussi, vous chantez les guitares. N'entends pas davantage qu'à la porte ne frappe un prétendant empressé, car, disait-on jamais, c'est au garçon de sonner et à la fille d'ouvrir. Mais qui l'a dit, qui avait droit de le dire? Ton cœur s'est frappé fort, aussi fort que le cœur des garçons. Ce que nul n'a droit, qu'il soit garçon ou fille, c'est de forcer la porte quand la porte est fermée. Ô belle fille sage à la fenêtre, qui ne voit rien venir. Il te faut descendre sur la route, mais non route déserte, pour entrer dans la danse des enfants qui se cherchent. Et si tu rencontres un garçon qui te plaît, dis-le lui, pourquoi attendre? Peut-être lui aussi ne peut imaginer qu'un cœur un jour puisse se poser sur le bord de ses lèvres. si tu n'éprouves que de l'estime, de l'amitié, sans pouvoir dire amour à un ami trop souvent négligé, marche avec lui et découvrez vos cœurs. En toi, peut-être un jour, une corde vibrera que tu croyais muette et tu trouveras beau le visage que tu trouvais banal. Car un regard, vois-tu, peut allumer un feu qui attendait pour prendre qu'on lui porte la flamme. Ô belle fille sage à la fenêtre qui ne voit rien venir, ne dis surtout pas que Dieu s'occupe de tes affaires et qu'il te faut attendre ses décisions de maître. Dieu n'est pas patron d'agence matrimoniale. Et les saints, ses employés qu'on paye d'une prière, il est père qui aime ses enfants et les pères n'aimaient pas leurs enfants quand sans eux, ils arrangent d'avance leur mariage. Si enfin, après avoir sans rougir nullement, cherché longuement, patiemment, et par tous les moyens justes que la vie te présente, tu n'as pas rencontré de compagnon de route, ne te résigne pas, car nul ne peut vivre épanoui qui se résigne à vivre. Sache alors que vivre célibataire n'est pas rater sa vie, mais la vivre autrement. Il te faut un jour décider librement de choisir ce que tu n'as pas choisi et vouloir que ton « oui » soit aussi volontaire que le « oui » des amants. Je me lèverai et moi aussi épouserai. Adieu mes rêves faux et pouvolage aux folles promesses qui vont, qui viennent, s'accrochant au visage des passants et me poursuivent, inlassables, jusqu'aux portes de la nuit. Adieu, amant de vent qui se glisse dans ma couche, me tourne et me retourne, mais s'envole au matin. J'ai décidé d'avec vous divorcer, car je veux être libre de vous pour être libre d'aimer. J'ai parcouru de ma vie ces premières routes et ces premiers lacets. Mon cœur fidèle m'a guidée, mais pas mon conduite, et je suis parvenue au tournant inconnu. Debout, arrêtée sur le bord du chemin, réfléchissant, priant et peut-être pleurant, mes yeux enfin ont accepté de regarder devant le paysage de ma vie. J'ai vu la route unique et clairement tracée. Elle ne figure pas sur ma carte, où je n'ai relevé que les chemins de mes désirs, mais elle s'impose à moi comme unique passage, pour me mener fidèle aux nombreux rendez-vous que sans moi, 1000 événements ont inscrits sur ma feuille de route. Je répondrai à l'appel, étrange vocation, tant de fois repoussée et disponible malgré tout, à l'événement imprévu que je ne cherche plus. Je marcherai vers l'autel où m'attend mon Seigneur et prononcerai le oui de mes noces décidées après avoir vécu si longues fiançailles. Oui, venez tous, amis, à ces noces solennelles, mais vous ne verrez pas mon époux. Il a 1000 visages et moi seule le reconnais qui s'avance vers moi, pas fatigué, cœur anémié, cherchant le pain de l'amitié et de la vie donnée. Car j'ai cru longtemps, triste sort, qu'il me faudrait épouser la morne solitude. Mais aujourd'hui je la refuse pour épouser la multitude. Je serai goutte d'eau fraîche au visage de ceux qui n'ont connu la rosée de tendresse. Je serai bras ouverts à l'enfant, cherchant asile d'affection. Je serai ferment mêlé à la pâte humaine, je labourerai les terres en friche et sèmerai serré là où nul laboureur n'offre le grain gratuit, car j'ai dans mon cœur disponible grande besace garnie pour la semence distribuée. Au sable de ma vie, je mêlerai sans cesse le ciment de l'amour, et rejoignant les bâtisseurs de cités, les combattants de la justice, avec eux je construirai maisons et temples pour les enfants du monde. Et puisque personne en mon lit ne m'attendra pour faire communion, je veillerai et combattrai pendant que d'autres reposeront. Devant toi, mon Seigneur, je me tiendrai cœur grand ouvert, répétant chaque jour les « oui » de mon « oui », comme les répètent les époux fidèles. et tu me diras que tu m'aimes comme tu les aimes et qu'il me faut t'aimer comme ils doivent t'aimer. Ainsi, avec toi, je donnerai ma vie, je donnerai la vie, car je serai mère d'innombrables enfants qui viendront plus tard m'accueillir en me disant leur nom dans la lumière de ton Père, le Père des vivants. Mais je suis femme, Seigneur, et souffrirai toujours de ne point connaître d'homme. Tu me comprends, Seigneur, car tu es homme, et tu as souffert, n'est-ce pas, de ne point connaître de femme, et de garder ton cœur et ton corps disponibles pour le livrer en communion aux foules affamées. Quand je rencontrerai la croix qu'il m'y faudra monter, je ne serai pas seule abandonnée, car je sais depuis longtemps, tu m'y as précédé. Je t'y rejoindrai, Seigneur, et ensemble nous en descendrons, car grâce à toi, la croix n'est plus un lit de mort, mais un chemin de vie. Et ma vie sera joie pour aujourd'hui et pour l'éternité. Le sage me dit encore quelques mots. Rapidement, il surveillait la porte. Visiblement, il craignait que l'infirmière nous trouve encore en train de parler. On frappa la porte, c'est elle. Elle salua gentiment, mais je n'osais affronter son regard. Je me sentais un peu coupable. Le sage, souriant, me lança un coup d'œil complice. Lui, comme un enfant, s'amuser de notre désobéissance. L'infirmière était maintenant dans la pièce voisine. Je l'apercevais de dos, occupée, je l'imagine, à préparer un médicament. J'en profitais pour prendre rapidement congé. Comme je me penchais vers mon ami, il m'attira vers lui et me murmura à l'oreille « Elle est belle, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfait de cette remarque du sage. Je me sentis rougir à l'intérieur et répondis gauchement « Oui, pas mal ». Il fallait bien répondre et je n'avais à ma disposition que ce qualificatif banal emprunté à nos fameuses catégories de gènes. Je m'éclipsai rapidement, vaguement mal à l'aise à cause de la question et penaud de ma réponse. Dehors, je me disais « Mais c'est vrai qu'elle est belle. Pourquoi ne l'ai-je pas reconnue ?» Et je m'aperçus que j'étais heureux qu'elle le fût. Chapitre 38. Quelques jours plus tard, je trouvai dans ma boîte aux lettres un mot de l'infirmière. Visiblement, il avait été rapidement griffonné. Il ne portait ni en tête ni formule de politesse. J'en devinai la raison. Je la comprenais. Si j'avais eu à écrire à cette infirmière, comment me serais-je exprimée? J'étais tout de même un peu déçue qu'elle n'ait eu pour moi aucune parole aimable. Au contraire, le mot disait « Votre ami est très fatigué, Il doit s'éloigner pour prendre un repos complet et recevoir des soins que je ne peux plus lui donner. Il sera absent très longtemps. Il a exprimé le désir de vous voir avant de partir. Il vous attend demain à l'heure habituelle. Mais de grâce, ne le fatiguez pas de vos questions. Puisque vous l'estimez, pensez à lui et à son état de santé très préoccupant. J'étais atterrée. Ainsi, le sage était gravement atteint. Il allait s'éloigner. Le reverrai-je un jour ? J'imaginais le pire, inquiet, profondément peiné. Mais j'étais aussi agacée par cette lettre. L'infirmière paraissait au courant de mes conversations avec le sage. Celui-ci lui avait-il parlé de moi ? J'en doutais, lui qui était si discret. Ou bien l'avait-elle questionné ? En tout cas, cette infirmière était peut-être belle, mais elle me faisait la morale et je n'aimais pas cela. Je décidai de visiter mon amie avant l'heure prévue, pour éviter de la rencontrer. Le sage était aux trois quarts allongé. Adossé à deux oreillers, il respirait avec difficulté. À ma vue, il s'anima, esquissa un geste pour se lever, mais cette fois je m'y opposai catégoriquement. Il n'insista pas, et je lus dans son obéissance l'aveu de sa faiblesse. Je ne lui demandais pas de nouvelles de sa santé. Je trouvais la question banale et savais d'avance qu'il ne me répondrait que pour me rassurer. J'attendais qu'il parle. Mais lui, comme chaque fois, attendait mes questions. Elles ne manquaient pas et elles étaient importantes, mais j'étais décidée à ne demander au sage que de courtes réponses. J'entrai immédiatement dans le vif du sujet. « J'ai beaucoup réfléchi, dis-je, à ce que vous avez dit à notre dernière rencontre. Je comprends maintenant parfaitement qu'un jeune... s'il est resté célibataire malgré lui, doit un jour non pas seulement se résigner à cette forme de vie, mais qu'il doit l'assumer pleinement. On ne peut pas vivre toute une vie à contre-cœur. Mais je ne comprends pas que des hommes et des femmes puissent choisir librement de vivre célibataire. C'est anormal. Ce qui est anormal, je te le répète, c'est de ne point aimer. La vocation de tout homme, c'est d'aimer, d'épouser, de donner la vie. Mais on peut répondre à cette vocation de façon différente. Ceux qui choisissent le célibat le choisissent par amour. Si les prêtres ne se marient pas, c'est donc par amour de Dieu ? Par amour de Jésus-Christ et de son Église, peuple de Dieu, humanité par lui rassemblée. Les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, demandent à certains chrétiens s'ils acceptent de tout quitter pour suivre Jésus-Christ et servir son Église. Ils seront leurs collaborateurs pour annoncer l'Évangile à tous les hommes, réunir autour du Christ la communauté des croyants et par l'Eucharistie, ne faire d'eux qu'un seul corps. Ils pourraient aussi bien se consacrer à cette tâche s'ils étaient mariés. Peut-être plus difficilement, mais certes, ils le pourraient. Cependant, depuis de nombreux siècles, l'Église leur demande d'y consacrer leur corps, leur cœur, leur esprit, toute leur vie. Pourquoi ? Pour imiter Jésus et par amour pour lui qui, sans réserve, s'est livré à son peuple. Il a fait alliance avec lui, il l'a épousé et lui a offert non seulement son cœur tout entier disponible, mais aussi son corps tout entier réservé. Il nous le donne en communion jusqu'à la fin des temps. Mais Jésus lui-même, dit-on, n'a pas réclamé un tel don pour les prêtres. C'est exact. Pas explicitement. L'amour ne demande pas, il s'offre. Et l'Église pourrait un jour décider d'agir autrement. Le souhaitez-vous ? Je le souhaite, mais je souhaite aussi de toute ma force qu'elle continue de proposer aux volontaires d'aller par amour jusqu'au bout de leurs dons. Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » Les prêtres n'offrent pas toujours ce témoignage d'amour. Ils essayent, mais tous n'y parviennent peut-être pas pleinement. Mais alors, où est le témoignage ? Certains témoignent d'un sommet parce qu'ils y parviennent et de là-haut font signe. D'autres cherchent sans cesse à l'atteindre, mais sans y parvenir. Ils témoignent ainsi que le but vaut la peine d'y consacrer une vie. Et plus bas, le sage ajouta lentement, « Les époux aussi ont vocation de témoigner. Par le sacrement de mariage, je te l'ai dit, ils s'engagent à être vivants, reflets de l'amour fidèle de Jésus pour son Église. Y parviennent-ils toujours ?» Il se tut, et je respectai le silence de ce douloureux aveu. Nous voici, chers amis, avant le dernier épisode, et nous allons terminer pour l'instant la rencontre entre le jeune et le sage. À bientôt pour la prochaine lecture.